Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Bonjour chers auditeurs. Nous continuons à découvrir tous les grands mystères de les titres qui présentent le mystère de l'Église, l'Église corps du Christ, l'Église épouse du Christ. Et alors, un dernier élément sur l'Église comme corps du Christ, est-ce que les saints dans l'histoire ont perçu cette dimension d'une Église comme corps du Christ et d'un Christ comme tête de l'Église?
Alors oui, ne serait-ce que par fidélité à l'Écriture, nous l'avons rappelé plusieurs fois dans Éphésiens 4, 16, on parle du corps qu'est l'Église, du corps du Christ, qui tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi la croissance et se construisant lui-même dans la charité. Donc Éphésiens 4, 16, et pareil, Colossiens 2, 19, on appelle chacun s'attacher à la tête dont le corps tout entier reçoit nourriture et cohésion par les jointures et ligaments pour réaliser sa croissance en Dieu. Là, nous avons pris conscience dans les émissions précédentes de l'importance de ces ligaments, de cette croissance, de ces jointures qui nous aident à avancer dans ce cheminement. Et bien naturellement, les saints qui sont en tête, en quelque sorte, de l'histoire de l'Église, ont pris la mesure de cette grande tradition qui remonte à l'Écriture elle-même, qui ne sont dans le fond que la mise en application de la parole de Dieu. Et nous avons saint Augustin qui dit « Félicitons-nous donc et rendons grâce de ce que nous sommes devenus non seulement des chrétiens, mais le Christ lui-même. Comprenez-vous, frères, la grâce que Dieu nous a faite en nous donnant le Christ comme tête? Soyez dans l'admiration et réjouissez-vous, nous sommes devenus le Christ, en effet, puisqu'il est la tête, et que nous sommes les membres, l'homme tout entier, c'est lui et nous. La plénitude du Christ, c'est donc la tête et les membres, qu'est-ce à dire, la tête et les membres, le Christ et l'Église. » Et c'est magnifique, c'est-à-dire nous pouvons comprendre pourquoi l'Église est une sainte catholique et apostolique à cause de cela, et que toute division est répréhensible. Le saisissons encore mieux. Et saint Thomas d'Aquin, notre grand théologien dominicain, dira « Tête et membres, une seule et même personne mystique, pour ainsi dire. » C'est pour cela que nous avons grande responsabilité quand nous agissons au vu et au su du monde, c'est que nous avons le devoir de rendre témoignage et d'agir conformément à ce que nous sommes, et non pas, comme dit l'épître de Pierre, que nous soyons jugés comme voleurs ou comme fornicateurs ou comme autre chose. C'est clair que nous devons être les témoins ajustés à la volonté du Christ et donc à sa sainteté.
Oui. Il y a un dernier paragraphe, je vois dans 795, où c'est sainte Jeanne d'Arc qui répond à ses juges. Je lis le paragraphe. Un mot de sainte Jeanne d'Arc à ses juges résume la foi des saints docteurs et exprime le bon sens du croyant. Citation, de Jésus-Christ et de l'Église, il m'est avis que c'est tout un et qu'il n'en faut pas faire difficulté.
Belle expression, alors qu'on voulait l'opposer à l'Église militante, et qu'elle est restée dans la soumission, elle a accepté de vivre cette passion dans la soumission, c'est tout à fait admirable, mais elle avait quand même la notion de la hiérarchie, car une fois l'évêque Cochon lui disait « Pourquoi tu ne m'obéis pas en remettant tes habits de soldat ?» Donc il y avait une sorte de dispute avec l'évêque Cochon, et elle lui dit « Bien sûr, j'obéis à l'Église, mais il y en a un qui est plus grand que toi, c'est le pape à Rome. » Et donc elle en appelait à Rome d'une manière admirable, et malheureusement, ils n'ont pas obéi, eux, en reconnaissant le droit qu'un prévenu puisse monter à un échelon supérieur. Et il y a eu le procès, par contre, en réhabilitation de Saint Jeanne d'Arc par Rome, justement, qui a ainsi condamné le tribunal parisien qui s'était fourvoyé à la solde des Anglais en condamnant Jeanne d'Arc. Mmh.
On aborde à présent au numéro 796 du catéchisme de l'Église catholique un dernier thème, c'est l'Église qui est l'épouse du Christ. Peut-on parler d'un lien conjugal entre le Christ et l'Église ?
Alors, comprenons bien qu'il faut faire attention parce que ce sont des langues dans lesquelles chaque chose a son poids. Et si nous avons développé jusqu'à présent l'image de la tête et du corps, c'est-à-dire que si nous sommes corps du Christ, c'est pour montrer que cela nous unit à la tête sans nous séparer, mais en même temps, il ne faut pas que l'on fasse une fusion totale, c'est-à-dire le Christ reste le Christ et nous sommes de pauvres pécheurs. Et donc il ne faut pas que cette fusion soit mal, agencé dans notre tête au tel point que nous finirions par faire dire des choses ou agir d'une manière qui serait des contre-témoignages. Et pour nous protéger, donc il faut aussi la distinction entre le Christ et son Église et la notion d'époux et d'épouse, deux personnes distinctes, permettent de distinguer sans désunir, puisqu'il s'agit d'une union nuptiale, comme dans le mariage, et nous savons que saint Paul a pris même le sacrement du mariage sur le modèle même des épousailles du Christ avec son Église. Donc on distingue sans désunir grâce à ce rapport époux-épouse. Et pour nous, c'est important parce que nous restons toujours tendus vers le Christ, sans nous arroger d'une manière qui serait contraire, comme un abus de pouvoir, un abus d'autorité. Nous ne pouvons pas nous arroger les prérogatives du Christ. Nous ne sommes qu'au service du Christ, serviteurs du Christ. Nous essayons d'agir in persona Christi capitis dans les sacrements, mais il n'y a que dans les sacrements vraiment que l'on puisse agir dans la personne du Christ-tête, comme on le dit, le sacrement de réconciliation, le sacrement d'Eucharistie, tous les sacrements à onction, nous agissons in persona Christi capitis, et cela nous montre bien qu'on ne peut pas prendre la place du Christ en tout et partout. Il faut rester à notre place, et Jésus nous a pour cela sollicité au service, à rester des serviteurs. Le serviteur inutile, par exemple, dans cette belle image de l'évangile de Saint-Luc, le serviteur inutile, celui qui, ayant fait tout ce qu'il a à faire, Jésus lui dit « Non, ne viens pas manger et boire tout de suite avec moi, mets-toi encore en tenue de service pour me servir. » Donc le service est toujours d'actualité pour nous garder dans cette tension, ce vers le Christ. Nous sommes introduits donc dans la direction du Christ, nous ne sommes pas encore lui d'une manière totale et définitive.
Cette image donc d'époux, d'épouse, de fiancé, qui sont ces mots qui sont utilisés par Jésus lui-même, est-ce que c'est l'idée qu'il veut et qu'il nous propose une grande communion d'amour, j'ai l'impression, parce que c'est tu es mon épouse parce que je t'aime, parce que je veux m'unir à toi, parce que nous sommes appelés à faire une unité, c'est ça ?
Oui, d'une certaine manière, je pense qu'il y a quelque chose en plus dans la notion d'épouse et d'époux qui remonte à la vision de l'Ancien Testament qui annonçait ces épousailles de Dieu avec son peuple, et d'une certaine manière, ce qui était prophétisé dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, devient réalité. Et pour nous, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire de penser que Dieu avait déjà annoncé qu'il voulait être l'époux par rapport à son peuple, l'épouse. Ce grand désir est marqué, par exemple, dans le prophète Isaïe, qui annonce déjà que ton époux, ton créateur, t'épousera. Dans la fin du prophète Isaïe. Ton époux t'épousera, ton créateur t'épousera. Et donc on voit bien qu'il y a aussi dans le prophète Osée des relations très fortes qui annoncent cette même désir d'épousaille. Et je dirais, au total, on peut être saisi par cette parole extrêmement belle que le catéchisme nous rapporte, en citant dans le fond le Concile Vatican II, l'épouse immaculée de l'agneau immaculé. Nous sommes l'épouse immaculée de l'agneau immaculé. Mmh. Et ça, je pense qu'on ne peut pas dépasser cette formulation, qu'elle est l'une des plus belles pour exprimer le mystère entre le Christ et l'Église.
Il y a deux autres livres auxquels je pense dans l'Ancien Testament. Il y a le prophète Osée qui parle de ce sujet beaucoup. Et puis il y a ce poème étonnant du Cantique des Cantiques qui a pu être interprété curieusement par certains, mais qui, dans l'idée, veut présenter cette communion entre l'Église et le Christ.
Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a déjà l'époux qui est là, qui frappe à la porte, qui disparaît, qui revient. Et l'épouse qui attend en quelque sorte les passages de l'époux. Et c'est tout à fait une lecture surnaturelle qu'il faut faire, mystique évidemment, de ces passages, et pas du tout de n'y voir qu'une sorte de chant, je dirais, purement d'amour humain. Mmh. Et il faut s'élever au-dessus et s'appuyer beaucoup sur tous les pères de l'Église qui ont si bien commenté donc ces passages de l'Écriture pour élever nos âmes et apprendre à être comme la voix de la bien-aimée par rapport au bien-aimé. Et d'ailleurs, toute l'Écriture culmine dans l'Apocalypse avec finalement les paroles qui disent au nom de l'épouse avec l'esprit, viens au Seigneur, cet appel final de l'Écriture, l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens. Donc tout est marqué ainsi dans cet appel.
Merci frère Edouard, merci. À bientôt.